Les séminaires du Collège de France.
Bonjour. Donc, je m'appelle François Charton. Je travaille chez Meta au FER, qui est le laboratoire d'intelligence artificielle, également un peu à l'École des Ponts. Et je vais vous parler de modèles de langage, c'est-à-dire d'intelligence artificielle. Modèle de langage, hein, c'est ChatGPT et les outils de ce type-là, et d'arithmétique. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous parler un peu d'intelligence artificielle et de mathématiques et de ce qu'on fait actuellement, parce qu'on entend beaucoup parler de ChatGPT, tout ça, mais ce n'est pas des maths. Donc en maths, ce qu'on peut dire, c'est que les modèles d'IA, et en particulier les modèles de langage, commencent à arriver à un niveau assez élevé. Ils sont capables de résoudre des problèmes vraiment difficiles. Donc je voulais vous montrer quelques exemples. Donc ça, c'est un exemple qui date de 2021, qui est un article d'Adam Wagner, où il a entraîné des modèles d'IA, à trouver des contre-exemples à des conjectures en théorie des graphes. Donc en particulier, c'est juste un des éléments du truc, Il a pris une conjecture qui date, je crois, de 2011 ou 2012, qui disait que voilà, si on a un graphe G, un graphe connexe, à 4 sommets ou plus, de diamètre D, le diamètre c'est la distance maximale entre des sommets, de proximité pi, c'est la distance moyenne entre un sommet et tous les autres, et de spectre de distance, c'est les valeurs propres de la matrice de distance, D1, D2, Dn, on a une certaine relation entre la proximité et la distribution de la matrice de distance. Donc, c'est une conjecture qu'on ne savait pas prouver. Et donc, Adam a entraîné un modèle qui, grosso modo, construisait des graphes qui étaient censés falsifier cette conjecture, en essayant à chaque fois, donc on rajoute une arête, puis une deuxième, et le modèle devine, grâce à un réseau de neurones, quelle est la meilleure arête à ajouter à chaque fois. Et la chose assez étonnante, c'est que ce modèle n'a trouvé aucun contre-exemple. Aucun. Sur toutes les conjectures, il n'a jamais réussi à faire quoi que ce soit de bien. Mais, et c'est ce qui est intéressant, tous les mauvais contre-exemples qu'il trouvait avaient un air de famille, et un air de famille utile. Et en fait, sur cette conjecture, vous voyez, il produisait des choses qui ressemblaient à cette espèce de fleur avec deux tiges, deux grandes tiges, puis plein de petits pétales qui s'accrochent au milieu. Et ça, ce n'est pas un bon contre-exemple. Mais un mathématicien entraîné sait regarder ce mauvais contre-exemple et le transformer en un bon contre-exemple. Et en fait, dans ce cas-là et dans pas mal d'autres, ils ont trouvé des contre-exemples en utilisant l'intuition que leur avait apporté l'intelligence artificielle. Plus près de nous, l'an dernier, il y a eu une équipe de DeepMind derrière sur Meera Paredes qui a produit quelque chose qui s'appelait FunSearch. Donc FunSearch, c'était un modèle de langage qui produit du code, donc exactement ce que vous avez dans Copilot, vous savez, les outils qui aident à coder, mais qu'on entraînait en lui donnant un problème combinatoire, et la machine allait vous produire un programme qui essaierait de produire de bonnes solutions à des problèmes combinatoires. Et ce FunSearch a réussi à trouver des solutions tout à fait compétitives, enfin novatrices, à un problème difficile et ancien qu'on appelle les CAPSET. Pattern Boost, on est sur Archive aujourd'hui, donc j'en parle parce qu'il vient de sortir. C'est un travail avec Jordan Ellenberg, toujours Adam Wagner et Jordi Williamson, qui utilise cette fois un modèle de langage pour améliorer des solutions de problèmes d'optimisation discrète. Donc vous avez un problème d'optimisation, vous avez une solution qui est bien sans plus, et ce modèle va vous produire de meilleures et meilleures et meilleures solutions en entraînant sur des bonnes solutions pour en produire des meilleures. Donc c'est un programme qui est finalement nourri des propres données qu'il génère. Et on arrive avec, entre autres, à résoudre avec ça une conjecture sur les sous-graphes de diamètre D dans un hypercube, qui est une conjecture qui a quand même une trentaine d'années. Alors c'est l'autre gramme, c'est pas le gramme très connu, c'est un autre. Mais malgré tout, c'est une conjecture un peu ancienne, et voilà. Dans un tout autre ordre d'idée, on ne fait pas que des graphes ou de la combinatoire. Il y a quelques mois, on a montré avec Amaury Ayad de l'École des Ponts et Alberto Alfarano qu'on était capable d'entraîner un modèle de langage pour prévoir les fonctions de Lyapunov. Alors, une fonction de Lyapunov, c'est un objet qui détermine la stabilité d'un système dynamique. Vous avez un système dynamique, vous avez un équilibre, et vous voulez savoir si vous démarrez pas trop loin de l'équilibre, vous allez toujours rester à l'équilibre, ou vous allez partir à l'infini à un moment. Si ça vous rappelle le problème à trois corps, vous savez, célèbre pour Poincaré, puis plus récemment pour Netflix, c'est exactement ça. Enfin, c'est une version voisine de ça. Grosso modo, vous allez avoir... Donc, la fonction de Lyapunov, c'est quelque chose qui dit, si vous avez un système, que vous trouvez une certaine fonction, la fonction de Lyapunov, qui a certaines propriétés, alors le système est stable, globalement stable. problème, c'est que Lyapunov, qui a fait ce théorème à la fin du 19e siècle, ne vous dit pas comment trouver la fonction. Et comment trouver la fonction, c'est très difficile, sauf dans des cas très faciles. Typiquement, vous pouvez faire une thèse pour trouver une fonction de Lyapunov et avoir une thèse avec toutes les félicitations du jury. Donc c'est vraiment un truc très dur. Et on a montré qu'on pouvait entraîner un transformeur sur plein d'exemples, la difficulté est de générer des exemples là, à produire des fonctions de Lyapunov, de systèmes au hasard, pour lesquels on n'a aucune autre méthode. Donc tout ça pour vous dire, ça marche. Mais il y a une sorte de paradoxe, c'est qu'il y a des domaines des mathématiques qui résistent. Et parmi ces villages gaulois, vous avez l'arithmétique. L'arithmétique, ça marche horriblement mal avec ces modèles de langage. Alors on arrive à faire des additions à beaucoup de chiffres, mais il a fallu vraiment travailler pour ça, c'est-à-dire qu'il faut fournir des résultats intermédiaires, il faut utiliser des embeddings un peu particuliers. Il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites juste pour faire marcher l'addition. On arrive à faire la multiplication à condition qu'un des opérandes soit très petit. Donc dans ChatGPT, il fallait que l'un des deux opérandes n'ait pas plus de trois chiffres. Au-delà de trois chiffres, c'était la catastrophe. Jusqu'à trois chiffres, ça allait. C'est quand même un peu décevant. Maintenant, on arrive à quatre, probablement cinq, sur vraiment les meilleurs modèles, mais c'est toujours pas très satisfaisant. Et en revanche, on est absolument certain du fait que si on prend des opérations un tout petit peu plus complexes, que des additions, des multiplications, ou si on a un mélange d'additions et des multiplications, ça va horriblement mal. Et c'est d'autant plus bizarre que l'arithmétique, on n'arrive pas à faire cette arithmétique de base, mais on arrive pourtant à faire des calculs. Il y a quelques années, ce n'est pas 2024, c'est 2021 d'ailleurs, j'avais montré dans un papier qu'on peut entraîner un transformeur en lui donnant des matrices carrées symétriques, et le transformeur est capable de prévoir les valeurs propres, les vecteurs propres de la matrice, qui est une tâche beaucoup, beaucoup plus compliquée qu'une addition ou une multiplication. Donc c'est une tâche qui a du bruit, l'autre n'a pas de bruit, etc. Donc il y a des différences. Mais en tout cas, c'est très mystérieux, c'est-à-dire que il y a des choses que le modèle sait faire très bien, et puis il y a des choses comme l'arithmétique, ça a l'air pourtant banal, que le modèle fait très mal. Alors, d'autres paradoxes ou surprises, c'est que tous ces modèles n'apprennent qu'à partir d'exemples. Et ils sont notoirement mauvais quand il s'agit de leur apprendre des règles. Vous voyez, quand vous voulez leur apprendre un principe, et encore plus mauvais s'il s'agit de combiner des règles. Vous lui dites, voilà, il faut faire ça, puis ça, puis ça. Tout ce qui est compositionnel, ça ne marche pas du tout. Et c'est un peu bizarre parce que l'idée d'apprendre les maths juste avec des exemples, c'est pas très mathématique. On n'apprend pas les maths à partir des exemples. On nous donne quelques exemples pour illustrer, mais on apprend des règles. Donc on a des modèles qui sont bons en maths, mais apparemment pour une assez mauvaise raison, ou en tout cas pour une assez mauvaise. Enfin, qui apprennent d'une manière un peu peu intuitive. L'autre point, alors c'est plus un ennui qu'un paradoxe, c'est que les modèles à la base ne sont pas explicables, sauf dans les cas les plus simples. Mais les plus simples, c'est ridiculement simple. Donc en général, même si le modèle vous donne la bonne solution, vous ne savez pas ce qu'il a fait ni comment il a fait. Donc les modèles sont des boîtes noires. Alors il y a des cas où ça ne nous gêne pas. Hein, si on cherche un contre-exemple ou si on a des solutions vérifiables, une fonction de Lyapunov qu'on peut vérifier, ma foi, comment il l'a trouvé, on s'en moque un peu du moment qu'on a la solution. Mais si on veut comprendre les mathématiques sous-jacentes, c'est un peu embêtant. Donc je ne sais pas comment vous le dire, c'est un bilan un peu mitigé. Alors ici, je vais vous parler des trois choses qui posent un peu problème. L'arithmétique, l'apprentissage à partir d'exemples, et l'explicabilité. Et on va faire que des maths faciles. Donc je vais travailler sur trois problèmes. Le principal, c'est le calcul du plus grand diviseur commun de deux entiers positifs. Donc je prends des grands entiers de 1 à 1 million. Donc le PGCD de 24 et 12, c'est 12. De 2 et 5, c'est 1, etc., etc. Donc niveau 3e, je crois, un truc comme ça. Et on verra ensuite, mais dans un second temps, et plus pour valider qu'autre chose, deux autres cas qui sont l'addition modulaire. C'est-à-dire vous avez deux grands nombres, A et B, vous voulez faire leur somme et calculer le reste de la division de cette somme modulo P, où P est un nombre plutôt petit, qui peut être premier ou pas. Et multiplication, c'est la même chose avec multiplication. Alors, comment on va faire ça? Je ne vais pas beaucoup vous parler des modèles. Vous pouvez les imaginer comme des boîtes noires, moi ça me va très bien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va entraîner un modèle sur beaucoup d'exemples, et le modèle, il ne fait que du langage. Il apprend à traduire le problème en sa solution. Donc ce que je fais, c'est que je représente mes entrées, qui sont deux chiffres, et ma sortie, qui est un chiffre, en une phrase, qui est une séquence de mots, en fait une séquence de chiffres. Je représente mes chiffres comme je les écris. Donc, dans une certaine base, en base 10, par exemple, 12, 24, je l'écrirais plus 1, 2, plus 2, 4. Et 12, ce serait plus 1, 2. Et je vais entraîner mon modèle à partir de plein d'exemples à traduire plus 1, 2, plus 2, 4 en plus 1, 2, exactement comme il traduirait une phrase française en une phrase anglaise. Juste sur la base d'exemple. Alors, plus 1, 2, plus 2, 4, cette description, c'est pour votre confort et le mien, parce qu'en réalité, les mots n'ont aucun sens. C'est-à-dire que je pourrais changer tous les mots et dire que c'est bleu prune pomme, bleu pomme poire qu'on doit traduire en bleu prune pomme. Ça marcherait exactement pareil. En d'autres termes, le modèle, ce n'est pas que plus, ça veut dire quelque chose. Le modèle, ce n'est pas que 2, c'est 1 plus 1, ou que 4, c'est 2 fois 2. Le modèle, ou que 4 même est plus grand que 2, ce sont uniquement des symboles. On va faire ça en utilisant un transformer. Donc, le transformer, c'est l'architecture de base qui sert à tous les modèles de langage, ChatGPT, etc. C'est en train de devenir l'architecture dominante en IA aujourd'hui. Et c'est formé de deux parties. C'est un transformer classique, encodeur-décodeur. Donc, il y a un encodeur qui prend l'entrée, donc plus 1, 2, plus 2, 4, et la transforme en un vecteur en très haute dimension, une représentation interne, et un décodeur qui ensuite va prédire mot à mot la solution. Donc on lui donne plus 1, 2, plus 2, 4, transformé en un vecteur compliqué, et il vous prévoit le premier mot qui est plus. Puis ensuite on lui donne plus 1, 2, plus 2, 4 et plus, il vous prévoit le second mot qui est 1, et ainsi de suite. Ça s'arrête quand il vous envoie un symbole spécial qui dit « j'ai fini ». On utilise pour ça un très petit modèle de langage, hein, donc on n'est pas du tout au niveau des modèles des ChatGPT et autres. Mes modèles font, sur ces expériences, environ 35 millions de paramètres. Les modèles actuels, les Llama 3 et tout ça, c'est 400 milliards. D'accord ? Donc il y a un rapport de 1 à 10 000, donc c'est même pas des modèles énormes qui font des trous dans la couche d'ozone et qui sont entraînés sur des millions de GPU, c'est des tout petits modèles qui tournent assez facilement. Et finalement, on va faire de l'apprentissage supervisé. Alors, supervisé, ça veut dire qu'on a les questions et les réponses au moment de l'entraînement. On connaît les problèmes et les solutions pour apprendre à traduire. Donc, comment ça fonctionne ? Les paramètres du modèle sont initialisés au hasard. Pendant l'entraînement, on va présenter des groupes d'exemples, qu'on appelle des batchs, des mini-batchs. Et on va comparer les prévisions du modèle aux réponses correctes. D'accord ? Donc au début, ça va être catastrophique, puisque les poids sont au hasard, le modèle fait n'importe quoi. Mais l'idée, c'est que ça s'améliore au fil du temps. Et on va utiliser une fonction de coût qui s'appelle l'entropie croisée, qui consiste juste à vérifier si la valeur est bonne ou pas bonne, ou si la proba prévue est bonne ou pas bonne. Le modèle, en fait, prévoit des probas. Et on modifie de temps en temps les poids du modèle, de façon à ce que la proba des bons, des valeurs qu'il aurait dû prévoir, des mots qu'il aurait dû prévoir, soit un peu plus haute que celle qu'il a prévue. Et puis on répète ça des millions de fois. Et miraculeusement, mais on a beaucoup d'expérience maintenant de ça, ça fonctionne pas mal. Et puis intervalle régulier, donc dans mon cas c'est tous les 300 000 exemples, j'appellerais ça une époque, on teste le modèle sur des exemples au hasard, qu'il n'a pas vu à l'entraînement, pour voir où il en est. Donc on va commencer par parler de PGCD, donc c'est un article qui est paru cette année. Donc on prend, donc l'idée c'est qu'on va avoir deux nombres A et B, qu'on choisit au hasard uniformément entre 1 et 1 million. Donc il y a 10 puissance 12 exemples possibles. Donc le modèle ne voit jamais deux fois le même exemple, ou quasiment jamais deux fois le même exemple. Hein. Et on va entraîner le modèle à prévoir leur PGCD. Alors juste pour clarifier un tout petit point de maths, les PGCD, la probabilité que deux nombres au hasard aient un PGCD de K, c'est proportionnel à 1 sur K au carré. C'est un vieux théorème de Cesaro. Donc ça veut dire qu'il y a 4, si vous prenez dans mes nombres au hasard, il y a 4 fois plus de PGCD à 1 que de PGCD à 2. Il y a 100 fois plus de PGCD à 1 que de PGCD à 10, d'accord ? Donc, autant A et B, les opérandes, les entrées, sont uniformément distribuées, autant les PGCD ne le sont pas. On va représenter A et B comme des séquences de chiffres en base B, et le choix de B va être un des paramètres qu'on va essayer d'optimiser. On va regarder beaucoup de valeurs de base pour voir ce qui se passe. Alors, comment on choisit B ? En fait, il y a deux grandes idées pour ce problème dans le choix de B. Si vous avez une petite base, vous êtes par exemple en base 2, vos séquences, les séquences qui représentent les nombres vont être très très longues, vous allez avoir des longues phrases. Mais vous allez avoir un vocabulaire très petit, vous avez que deux mots, 0 et 1, enfin 0, 1 et plus. Donc il y aura 3 mots au total. Si vous êtes en base 10, vous allez avoir 11 mots, 10 plus 1, et des séquences beaucoup plus courtes. Si vous êtes en base 1000, vous aurez 1000 mots, 1001 mots, et des séquences toujours plus courtes. Donc il y a un équilibre à trouver entre un vocabulaire plus grand, un plus grand vocabulaire, il faut plus d'exemples pour l'apprendre, et des séquences plus courtes. Et une séquence plus courte, c'est pour un modèle de langage, c'est généralement plus facile à apprendre, à cause des mécanismes d'attention, à cause de l'autocorrélation entre les éléments de la séquence. Donc, on a un choix entre avoir des grandes bases qui vont avoir des grands vocabulaires, mais des petites séquences, et l'inverse pour les petites bases. Il y a aussi un choix sur la nature numérique de la base. On peut avoir des bases premières ou des bases composites. Si j'ai une base composite, par exemple 30, dans le PGCD, la divisibilité, ça compte. C'est important. En base 30, la divisibilité par 2, par 5, par 6, etc., c'est très facile à repérer. On regarde les derniers chiffres et on sait comment ça se passe. Donc c'est facile de deviner la divisibilité. En base 31, c'est beaucoup plus dur. Donc il y aura des choix et on va voir comment ça se passe. Alors, la première expérience, qui est déjà assez ancienne, j'avais commencé avec une base 30. Donc c'est un nombre, c'est une base qui est petite mais pas trop, qui est bien composite là par contre. Et on prend des tout petits modèles, ils ont une couche, 64 dimensions, c'est un modèle qui a 300 000 paramètres, donc c'est ridiculement petit. Vous entraînez au bout de 300 000 exemples, il vous prévoit 85% des PGCD d'un échantillon de test qu'il n'a jamais vu au hasard. Donc spectaculaire, il a 17 sur 20 le modèle. Et si vous entraînez 45 millions d'exemples, vous arrivez à 95% des PGCD. Donc l'impression c'est que les PGCD, ce que je vous ai dit sur l'arithmétique, ben, ça ne vaut pas pour les PGCD ça marche. Sauf que si on est un peu curieux et qu'on regarde la base 31, on a la courbe verte. Et vous voyez, ma courbe verte, il y a 61% de PGCD correct et le modèle n'apprend pas. Et les 61, on les a vus tout à l'heure, c'est le nombre de PGCD à 1. En fait, le modèle prévoit tout le monde à 1 et tout le temps, qui est la valeur la plus courante. Il ne peut pas se tromper comme ça. Enfin, c'est comme ça qu'il a le moins tort et il n'apprend rien. Évidemment, si on poursuit, ben, on va de surprise en surprise. Donc là, vous avez les courbes en base 30, 6, 10, 2, 3, 31 dans l'ordre. Et vous voyez que la performance dépend de la base de représentation. Et là, ça ne veut plus rien dire. Le PGCD, ça ne dépend pas de la base de représentation. C'est une propriété des nombres eux-mêmes. Donc, est-ce que le modèle apprend vraiment les PGCD ? Ben, en fait, on peut en douter, même si les résultats ont l'air bons. Alors, comment peut-on comprendre ce qui se passe ? Ben, on peut regarder ce que prévoit le modèle dans un cas très simple, à base 2. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un modèle entraîné. J'ai pris 100 000 exemples. Et j'ai 1000 exemples au hasard qui ont un PGCD à 1, 1000 qui ont un PGCD à 2, etc., jusqu'au PGCD à 100. Et je vous donne les valeurs de 1 à 33 ici. Alors, à chaque fois, je vous indique le pourcentage, c'est la fréquence. Donc, je vous donne la plus courante prédiction, donc la prédiction la plus courante du modèle sur tous les PGCD à 1, 2, 3, 4, 5, et la valeur de cette prédiction. Ce que vous voyez, c'est que les pourcentages, c'est 100, sauf 1 malheureux qui est à 99,9, ce qui veut dire que quand deux nombres ont le même PGCD, le modèle prévoit toujours pareil. Et ça, c'est mystérieux. Nous, humains, on est incapables de faire ça. Je vous donne A et B, et C et D, et je vous demande de dire, ils ont le même PGCD ou pas, on est incapable de le faire, il faudrait qu'on calcule. Le modèle sait faire ça, il apprend ça. Ensuite, si on regarde les prédictions correctes, vous voyez que c'est 1, 2, c'est les rouges, 1, 2, 4, 8, 16, 32, les puissances de 2. Donc le modèle apprend les puissances de 2. Mais ça ne s'arrête pas là. Si vous regardez les prédictions, les nombres impairs sont tous prévus comme 1. Les nombres pairs sont prévus comme la plus grande puissance de 2 qui les divise. Donc, il y a une structure. Le modèle entraîné prévoit pas très bien, il triche certainement, mais il prévoit quelque chose qui est tout à fait concret. Alors, que fait le modèle ? En fait, ce n'est pas dur à voir. Le modèle, il compte les zéros. La divisibilité par une puissance de 2 en base 2, ça s'obtient en comptant le nombre de zéros à droite du nombre. Donc le modèle va juste compter les zéros à droite des deux opérandes, il va prendre le minimum, il va répondre 2 à la puissance A. Et ça explique tous les exemples que vous avez vus. Donc le PGCD de 12, 1, 1, 0, 0, 2, 0 et de 24, 1, 1, 0, 0, 0, va être prévu comme 4. Il a tort, c'est 12, mais c'est effectivement la prédiction du modèle. Il y a des fois où ça marche, 52 et 68, ça marche très bien. Alors, si on poursuit, la base 2 c'est un exemple simple, si on regarde la base 10, la base 10 c'est pareil, vous voyez que tout est prévu à 100%, et qu'on prévoit correctement 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16, 20, 25. On prévoit en fait les produits de petite puissance des diviseurs de la base, de petite puissance de 2 et 5. Et le modèle apprend ça. Alors comment il fait ? C'est facile, la divisibilité, ça se juge sur les derniers chiffres. Un nombre divisible par 10, il finit par 0. Un nombre divisible par 20, il finit par 0, 0, 20, 40, 60, 80. Donc le modèle triche, en fait, mais il apprend un algorithme déterministe. Quand on vous dit c'est des boîtes noires, ça hallucine. Là, le modèle hallucine pas du tout. Il a un algorithme parfaitement déterministe. En fait, on constate que pour beaucoup d'opérations, dans beaucoup de bases, j'ai vraiment testé énormément de bases là-dessus, on peut tout réduire en trois règles. Il y a trois règles qui expliquent toutes les prévisions de mon modèle. La première, c'est que les prévisions sont déterministes. Donc, si vous avez une paire d'entiers AB ayant K pour PGCD, le modèle prévoit toujours la même valeur qui est f de k. Il existe une fonction unique qui associe à toute paire de PGCD une fonction de leur PGCD. Et ça, c'est vrai dans presque 100% des cas. Les prévisions sont correctes si f2k égale k, mais ce n'est pas toujours le cas. Justement, les prévisions correctes, c'est les produits des diviseurs de B. Donc en base 2, c'est les puissances de 2. En base 10, c'est les produits d'éléments de 1, 2, 4, 8, 16 et de 1, 5, 25. En base 30, ce sera les produits de 1, 2, 4, 8, 1, 3, 9, 27 et 1, 5, 25 et ainsi de suite. Et pour toutes les autres valeurs, f de k, c'est la plus grande prévision correcte qui divise k. D'accord ? Donc c'est le plus grand diviseur que je suis capable de prévoir, en fait. D'accord ? Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on apprend là, donc c'est d'abord que le modèle triche, que ça dépend de la base, mais on a compris pourquoi ça dépend de la base. On apprend quand même que le modèle apprend quelque chose de mathématique et d'intéressant. Il apprend la divisibilité, il apprend des choses régulières. Évidemment, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un moyen d'avoir, alors même s'il obtient des grandes performances, alors pourquoi les performances sont élevées ? Parce que les PGCD égaux à 1, il suffit de les prévoir correctement et vous avez déjà 60% de performance, etc. Donc c'est facile d'avoir des bonnes notes quand vous voyez les cas les plus faciles sont aussi les plus courants. Mais si vous regardez le nombre de PGCD corrects entre 1 et 100, c'est l'indicateur que je vais utiliser par la suite, vous voyez qu'en base 2, il prévoit 7 PGCD correctement et c'est tout. En base 3, il n'en prévoit que 5. En base 10, il en prévoit 13. Vous voyez qu'en base 30, on arrive à 27. En base 420, c'est 4 fois 3 fois 5 fois 7, donc super divisible. On arrive à 38, mais c'est que 38 PGCD sur 100 qui sont correctement appris. Donc le modèle n'apprend pas vraiment les PGCD. Par contre, il y a dans ce tableau une énorme surprise, c'est la base 1000. Parce que la base 1000, c'est comme la base 10, on devrait apprendre 13 PGCD. Mais il se trouve que quand on entraîne suffisamment, on en découvre 22. Donc, il y a plus dans l'apprentissage des PGCD que ce qu'on vient de voir. En fait, en base 1000, après 25 millions d'exemples, ça se passe comme prévu. On a prévu nos 13 PGCD inférieurs à 100, les produits de puissance de 2 et de puissance de 5. Mais après 66 millions d'exemples, le modèle arrive à en prévoir 22 parce qu'il prévoit 1, 2, 4, 8, 16, 1, 5, 25 et 1, 3. Il a appris 3. Et 3 divise vraiment pas 1000. Donc, il s'est passé quelque chose qu'on ne comprend pas très très bien. Mais en tout cas, il y a une possibilité d'apprendre des nouveaux PGCD. Alors, on va regarder ça dans un cas un peu plus élevé. Le papier a été écrit l'an dernier, donc j'ai pris la base 2023. La base 2023, elle a ça de bien, que c'est 7 fois 17 au carré. Elle n'a pas de petit diviseur. Et vous allez voir que c'est pas petit diviseur premier. Vous allez voir, c'est une propriété intéressante. Donc, à droite, vous avez mes modèles. Donc, vous avez la fonction de coût, donc ce que le modèle minimise. Donc, c'est ce qu'il essaye d'apprendre. Et à côté, vous avez le nombre de PGCD prévus au milieu. Et vous avez trois courbes qui correspondent à trois modèles différents. C'est le même modèle, mais avec des initialisations des poids différentes. Donc c'est des modèles qui changent par une initialisation au hasard. Ce que vous voyez, c'est qu'au bout de 3 millions d'exemples, tout se passe comme prévu. On a appris 1, 7 et 17, les diviseurs de la base. Jusque-là, tout va bien. Si on attend très longtemps, donc si vous l'oubliez pendant le week-end, au bout de 30 millions d'exemples, vous allez apprendre 3, mais pas juste 3. Vous apprenez 3, 21, soit 3 fois 7, et 51, soit 3 fois 17. Donc mes classes de prévision, 1, 7 et 17, ont toutes doublé. Vous voyez, on apprend nos PGCD par lot. Et si on attend encore 30 millions d'exemples, on va apprendre 2, mais aussi 3 fois 2, mais aussi 7 fois 2, mais aussi 17 fois 2, mais aussi 21 fois 2, et ainsi de suite. D'accord ? Et après 180 millions d'exemples, on va apprendre les multiples de 4, etc. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il semblerait que le modèle, une fois qu'il a appris les diviseurs de la base, si on le laisse tourner pendant très très longtemps, finit par apprendre les petits nombres premiers et leur puissance. Il les apprend grosso modo dans l'ordre, je dis grosso modo parce que là on voit que le 3 est appris avant le 2, mais c'est à peu près ça quand même. Et il l'apprend d'une manière un peu mystérieuse, parce que vous voyez là, la fonction de coût qu'on minimise, elle est complètement plate. Donc on peut se demander comment le modèle apprend, parce que le signal qui permettrait au modèle de s'améliorer, il vient de cette fonction. Mais si cette fonction est plate, c'est qu'il n'y a pas de signal. Le modèle n'apprend rien. Donc il y a sans doute une dérive du modèle qui est liée à la régularisation, liée à l'optimisation. Mais en tout cas, le modèle mystérieusement apprend tout d'un coup quelque chose. Il y a comme un changement de phase qui fait qu'on a 3 PGCD, on en apprend 6, puis 12, etc. Et dans ce système, les trois règles qu'on a observées avant restent complètement vérifiées, c'est-à-dire le modèle est toujours aussi déterministe, il apprend juste plus de nombres premiers. Donc ce qu'on voit, pour résumer, en base supérieure à 1000, les facteurs premiers n divisant pas B sont appris petit à petit dans l'ordre. Et ça nous donne un algorithme qui, en théorie, peut tout apprendre. C'est un algorithme de crible, c'est pas du tout Euclide, hein, donc c'est pas ce qu'on ferait nous. Mais on va apprendre les PGCD les uns après les autres. Et quand vous avez appris le PGCD, ben vous connaissez tous ces PGCD-là pour tous les nombres. Donc il suffit d'attendre très très longtemps. Hein? C'est... Donc en théorie, on pourrait tout apprendre avec un système comme ça, enfin si ça c'est vrai, moyennant beaucoup, mais beaucoup ça veut dire vraiment énormément d'exemples. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on serait capable d'accélérer cet apprentissage, de faire qu'il apprenne pareil, mais qu'il apprenne plus vite ? Alors on va voir trois stratégies qui vont chacune à leur façon marcher, et qui à la fin marcheront vraiment très bien. Donc la première, c'est d'utiliser des exemples répétés. Actuellement, ce qu'on fait, c'est que les exemples sont vus qu'une fois. Nous, c'est pas comme ça qu'on apprend. On apprend bien par la répétition. Donc est-ce que ça marcherait pas mieux pour les machines aussi ? L'autre chose, c'est que tous les exemples qu'on voit sont pris au hasard, les petits des grands, des compliqués des simples. On pourrait commencer à l'entraîner sur des exemples faciles. Nous, c'est comme ça qu'on apprend aussi. Et puis l'autre point, c'est que vous vous souvenez, mes PGCD, c'est en 1 sur K2, ce qui veut dire qu'il n'y a que des petits PGCD dans l'échantillon d'entraînement. Donc évidemment, apprendre les grands PGCD, c'est dur parce qu'il n'y a pas d'exemple. Donc si on mettait un peu plus de grands PGCD, ça nous aiderait peut-être. Donc, la première chose qu'on a essayé, donc, c'est un article qui est sorti le mois dernier avec Julia Kemp, sur la répétition. Donc en gros, là, maintenant, on est en base 1000. D'accord ? Et on va entraîner notre modèle sur des échantillons limités. Donc ce que vous voyez à droite, en bas, en abscisse, c'est le nombre d'exemples d'entraînement. Donc on a entraîné pendant 30 millions, 150 millions. Donc là, c'est la durée d'entraînement. L'ordonnée, c'est le nombre de PGCD prévus. Et les valeurs là, c'est le nombre d'exemples différents dans l'échantillon d'entraînement. Donc l'exemple à 1 million, quand on est à 30 millions d'exemples, c'est 1 million d'exemples qui ont été vus en moyenne 30 fois. D'accord ? Puis en bas, vous avez l'exemple infini où les exemples sont quasiment tous vus une fois. Il y a presque autant d'exemples que d'exemples d'entraînement. Alors, si vous entraînez ce modèle pendant 30 millions d'exemples, vous vous apercevez que tous vos modèles prévoient 13 PGCD. Vous vous souvenez, c'est le nombre qu'on avait en base 10, donc c'est les diviseurs de la base. Mais il y a deux modèles qui ne font pas pareil, qui en prévoient presque 20, c'est les 1 million et 5 millions. Si vous entraînez 150 millions, donc vous laissez tourner plus longtemps, vous apercevez que les grands modèles, donc infini, 100 millions, font pas beaucoup mieux, ils sont toujours à 14, 15, ils ont quasiment rien appris de plus. Mais par contre, que mon modèle à 1 million, il sature, parce que 1 million d'exemples, à force de les répéter, il y a un surapprentissage, et le modèle mémorise les exemples et il apprend plus rien. Mais par contre, le modèle à 5 millions, maintenant, il prévoit 35 PGCD ou 40 PGCD, qui est bien plus que ce qu'on a vu avant. Et si on entraîne, vous voyez, 1 milliard d'exemples, alors c'est beaucoup, 1 milliard, hein, ou 600 millions d'exemples, on s'aperçoit que les meilleurs modèles, c'est les modèles qui ont 25 millions d'exemples répétés beaucoup de fois, et qu'inversement, le modèle infini, là, celui qui est tout au bout, ben, il n'apprend jamais bien, il est toujours à 20, 22, etc. Il n'apprend pas les PGCD. D'accord ? Et en fait, après 1 milliard d'exemples, les meilleurs modèles arrivent à apprendre tous les PGCD, tous les nombres premiers jusqu'à 23. Donc on a le même système qu'avant, c'est-à-dire qu'on apprend les petits nombres premiers, mais on en apprend beaucoup plus et beaucoup plus vite. C'est toujours la même méthode. Alors, ce qu'on pourrait se dire à ce stade, c'est que c'est une bonne méthode la répétition, mais on voit que si on suivait cette logique de la répétition, on l'entraînerait sur un échantillon tout petit. Mais ça, on sait que ça ne marche pas. Si l'échantillon est tout petit, le modèle va mémoriser l'échantillon, il ne va pas généraliser, il ne va pas apprendre. Donc on voudrait un échantillon très grand. Donc comment on fait pour équilibrer les deux ? Ben, l'idée, c'est d'utiliser ce qu'on va appeler le double échantillon. C'est-à-dire que vous partez de 50 millions d'exemples, vous en prenez 50 000 au hasard, et ces 50 000, vous allez les répéter. Et le reste, vous ne répétez pas. Donc vous prenez 50 000 exemples que vous allez sélectionner beaucoup de fois, et puis les autres, vous les prenez une fois de temps en temps, de manière à ce qu'ils soient peu répétés. Et ça, ça aide énormément. Donc vous voyez les courbes qui se trouvent là, c'est l'ancien modèle, donc c'est le modèle avec répétition normale. Et ça, c'est mon double exemple. Vous voyez qu'il a, non seulement il apprend beaucoup plus vite, mais il apprend plus. Il arrive à peu près 70, 72 PGCD appris, contre, dans le meilleur des cas, 65, un truc comme ça pour ceux-là, et plutôt 50-60 pour les autres. D'accord ? Et dans un modèle comme ça, on apprend tous les facteurs premiers jusqu'à 23. Donc on apprend vraiment beaucoup, beaucoup de noms. Les trois règles s'appliquent toujours, c'est toujours aussi prévisible. D'accord ? Donc la première leçon, c'est que si on répète les exemples, on a moyen de nettement améliorer l'apprentissage. Et il n'y a pas de coût, hein, ça consiste juste à avoir moins de données. Alors, c'est très contre-intuitif. Hein, un modèle qui n'apprend qu'à partir d'exemples, comme je vous disais au début, si vous avez le choix entre avoir beaucoup d'exemples ou peu d'exemples, vous avez tendance à dire, ben non, je préférerais beaucoup d'exemples, il y aurait plus de choix, plus d'exemples, ce serait mieux. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas complètement vrai. La répétition compte, en tout cas. Et ce qu'on voit aussi, alors on a aussi regardé si vous choisissez, les exemples, je les choisis par hasard. Un des côtés très mystérieux de la chose, c'est que si j'essayais d'améliorer la chose en prenant des exemples plus faciles ou des exemples particuliers ou des grands PGCD ou trucs spéciaux, en fait, ça ne marche pas mieux. Donc, l'important, c'est la répétition, ce n'est pas le choix des exemples. Les exemples au hasard, du moment qu'ils sont répétés, suffisent. Alors, la seconde chose qu'on pourrait faire, c'est de modifier la distribution d'entraînement. Donc, le modèle est entraîné sur des entiers pris uniformément entre 1 et 1 million, ça veut dire que 90% des opérantes du modèle sont supérieures à 100 000. Donc, le modèle apprend que sur des grands nombres. Et des tout petits PGCD, comme le PGCD de 5 et 7, de 2 et 4, sont quasiment jamais vus. Là encore, c'est pas comme ça qu'on apprend, nous. Donc, est-ce que ça marcherait mieux si on entraînait le modèle sur des plus petites valeurs? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la distribution des opérandes. Au lieu qu'elle soit uniforme, donc P de choisir A, c'est A, on va prendre log uniforme, c'est-à-dire P sera C sur A. Donc, les petits nombres seront plus choisis. En gros, il y aura autant de nombres à un chiffre que de nombres à deux chiffres, que de nombres à trois chiffres, que de nombres à six chiffres. D'accord? C'est uniquement la distribution d'entraînement. Le test, je ne change rien. Donc, la distribution d'entraînement bouge, mais la distribution de test est la même. Voilà, il n'y a pas de... Alors, ce qu'on observe quand on fait ça, vous voyez sur plusieurs bases, c'est que le modèle apprend vraiment mieux. Par contre, on introduit du bruit. Vous voyez, mes courbes sont zigzag beaucoup, c'est mes courbes de test. Elles bougent beaucoup d'une époque à l'autre. Donc, le modèle est jamais... Voilà, c'est plus bruyant. Les marches aussi bien claires qu'on voyait maintenant sont un peu plus arrondies. Enfin, il y a une sorte d'érosion qui se passe. Mais il y a vraiment une amélioration. Vous voyez, en base 10, on passe de 13 à 48, PGCD prévu. En base 1000, on passe de 22 à 71, et c'est à peu près du même niveau que ce qu'on a eu avec la répétition. On pourrait penser mélanger les deux, mais ça ne marche pas. On est à 71 si on mélange les deux, donc ça n'arrange pas. Ça ne fait rien de mieux. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'en modifiant la distribution d'entraînement, on est capable d'améliorer significativement la prévision, non pas en changeant la mécanique d'apprentissage, mais en faisant que le modèle apprenne plus vite. Alors, le troisième truc qu'on pourrait utiliser, c'est la distribution des résultats. Vous vous souvenez, mes résultats sont distribués en 1 sur K2, donc les grands PGCD sont très rares. Et forcément, ça va nuire. Parce que pour apprendre des PGCD de 50, 51, 57, il va falloir en voir énormément pour en voir un. Il va falloir plein d'exemples pour en voir un. Donc si on distribuait en 1 sur K, puisqu'on aime bien les logs uniformes, ça va améliorer les choses. Vous voyez, si je suis en base 10, opérant d'uniforme et 1 sur K2, j'apprends 13. 1 sur K, j'apprends 14, c'est pas beaucoup mieux, log uniforme 65. Mais en base 1000, je passe de 22, si j'arrange un petit peu la distribution... je change la distribution des résultats, je passe à 31. Et si j'ai log uniforme plus 1 sur K, donc je change à la fois la distribution des entrées et des sorties, j'arrive à 91. Donc je suis très proche de prévoir tous les PGCD. Donc pour résumer, qu'est-ce qu'on a appris sur les PGCD? En base 1000, le modèle va apprendre de 22 à 25 PGCD si on le laisse, si on l'entraîne bêtement comme on avait fait au début, en prenant des données au hasard normales. En fait, si on l'entraîne sur les mêmes données que les données sur lesquelles on va le tester. Ce qui paraît être une bonne idée à la base, c'est pas une idée idiote du tout. Mais on apprend 22-25 PGCD, le modèle triche et puis il apprend les petites non-premiers, mais pas très vite. Si on a un échantillon fini avec répétition ou si on a des opérandes log uniformes, on apprend 71 PGCD. Si on prend des résultats uniformes et qu'on corrige la distribution de sortie, c'est-à-dire qu'on la met en 1 sur K, on est à 91. Et je vais vous garder ça pour la fin. Si on prend un échantillon fini en double échantillon et des résultats log uniformément distribués, on apprend 99 PGCD sur 100. Donc en fait, on apprend quasiment le PGCD correctement. Donc à la question, est-ce qu'on peut apprendre le PGCD? La réponse là est à peu près oui. Il faut un peu travailler pour, mais c'est tout à fait faisable. Alors à ce point, on va poser une question un peu bizarre. Vous voyez qu'on a amélioré nos résultats. La dernière source d'amélioration des résultats, ça consistait à modifier la distribution des résultats de 1 sur K2 en 1 sur K. Mais tant qu'à faire, pourquoi pas pousser? Pourquoi pas avoir une distribution uniforme des résultats? Faire qu'on ait autant de PGCD1 que de 2, que de 3, que de 4, que de 5. Eh bien, ça ne marche pas du tout, ou plutôt, il se passe quelque chose de complètement incompréhensible. Donc là, on est en base 10, vous allez voir pourquoi, c'est parce que ça aide à comprendre ce qui suit. À droite, vous avez la courbe d'entraînement, donc le coût d'entraînement. Vous voyez que ça ne bouge pas du tout. Donc le modèle, si je regarde cette courbe, je dis que le modèle n'apprend rien. La perte ne bouge pas, le modèle sans rien apprendre. Si je regarde maintenant le nombre de PGCD prévus, donc on a trois courbes, et ça zigzague complètement entre 10% ou même près de 0% et 80%. Et ça, c'est incompréhensible, parce que si le modèle n'apprenait rien, il n'apprendrait pas 80% de PGCD correctement au hasard, une époque sur 10 ou une époque sur 100. Ça ne peut pas arriver. Donc le modèle parfois apprend, parfois désapprend, et on ne comprend pas ce qui se passe. Et alors le mystère des mystères, c'est celui-là, c'est que la courbe du nombre de PGCD correctement appris, elle a toujours sa bonne forme, elle apprend par marche, comme avant, 15, 16, 17 PGCD, c'est appris par lot, comme avant, etc. Donc, dans le cas où les résultats sont uniformes, il se passe quelque chose de complètement différent. Donc, comment on va l'analyser ? Comme toujours, on va regarder les résultats uniformes et on va regarder les prévisions du modèle. Donc, vous vous souvenez, en base 10, mon modèle, il classifie les éléments. Donc, vous avez d'un côté une classe que je mets en vert ou que j'écris pour A, en A pour les gens qui auraient du mal avec les couleurs, qui prend les PGCD normalement prévus à 1. 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, ça normalement le modèle prévoit à 1. Ensuite, vous avez la classe B, qui est la classe des 2, qui normalement sont prévus en 2, en 4, puis C qui est en 4, puis D en 5. Et là, vous voyez les prévisions du modèle, donc la prévision la plus courante du modèle, qui est toujours majoritaire, sur plusieurs époques successives, donc après 266 fois 300 000 exemples, plus 300 000 plus tard, 300 000 plus tard, 300 000 plus tard, etc. Ce que vous pouvez voir, c'est qu'à l'époque 266, toute la classe A est prévue comme 1, c'est-à-dire correctement. Toute la classe 2 est prévue comme 2. Toute la classe 3, la classe C est prévue comme 44, donc mal, et la D est prévue comme 5. Mais à l'époque suivante, la classe A est prévue comme 19, puis 73, puis 7, puis 13. Donc en fait, le modèle prévoit un élément de la classe, hein, tous ces éléments appartiennent à la bonne classe, mais il prévoit aléatoirement un élément de la classe A à chaque époque. Donc, le modèle est bien capable de différencier les classes A, B, C. Vous vous souvenez de mes trois règles, c'est la première règle hein, qui dit que les PGCD égaux sont au même endroit. Donc, ces classes de PGCD sont toujours les mêmes, ça le modèle a su le faire. Mais par contre, il n'est pas capable d'affecter une prévision unique à la classe. La prévision change au cours du temps. Alors pourquoi elle change, comment elle change? En fait, l'hypothèse la plus logique, c'est que le modèle prévoit le symbole le label le plus fréquent dans chacune des classes. Quand je suis en 1 sur K2, 1 sur K, la classe A, voilà. Quand je suis en la classe A, le nombre le plus fréquent c'est 1. Donc le modèle prévoyait 1, puis 2, puis 4, puis 5. Là maintenant, le plus fréquent, ça dépend du hasard, ça dépend de comment les exemples sont tombés, puisque les exemples ont été rendus uniformes. Donc probablement, c'est ce que fait le modèle. Donc ce qu'on voit avec les résultats, c'est qu'il apprend bien les mêmes classes de PGCD, mais il les prévoit aléatoirement, probablement le label le plus fréquent. Et ce que ça montre, qui n'est pas du tout intuitif, c'est que équilibrer les résultats du modèle, ce n'est pas une bonne idée. Il faut vraiment une distribution décroissante des probabilités des différentes classes, pour que le modèle apprenne bien. Donc, j'en finis avec les PGCD. Donc, comment font les modèles ? Ils classifient leurs entrées, et on a l'impression qu'il y a vraiment deux étapes. Il y a d'abord une étape de classification, où on classifie les entrées en fonction des diviseurs communs. Donc, ça veut dire que toutes les paires KA, KB vont être mises dans la même classe, qui est la classe K. Les K qui sont appris initialement, c'est 1 et les puissances de nombres premiers divisant la base, mais au fur et à mesure de l'entraînement, on apprend aussi des classes de petites puissances de nombres premiers. Mais c'est comme ça que ça évolue. C'est facilité, on peut accélérer ceci, l'apprentissage des autres puissances, par la répétition, une distribution au log uniforme et des opérandes plus équilibrés, des résultats plus équilibrés. À chaque fois qu'on apprend un nouveau diviseur, on n'apprend pas une classe, on apprend toutes les classes précédentes se divisent en deux, se coupent en deux. Donc vous pouvez imaginer que les classes sont ensemble, vous avez 1 et 3 qui sont ensemble, et tout d'un coup, il y a une séparation, et 1 et 3 se séparent, mais 2 et 6 se séparent en même temps, toutes les classes, tout est appris par lot. Donc ça, c'est la classification. Et puis ensuite, le modèle va prévoir une sortie pour chaque classe. Donc il fabrique des classes, puis il prévoit les classes. Et la prévision des classes, il faut absolument qu'il y ait une discontinuité, enfin un déséquilibre dans l'effectif de chacune des classes, pour que ça fonctionne, sinon ça devient aléatoire. Alors à ce stade, on pourrait se dire, bon, c'est bien gentil tout ça, on a appris des choses intéressantes sur les PGCD, mais est-ce que c'est vraiment c'est de l'arithmétique bien sûr, mais est-ce que ça s'applique à toute l'arithmétique? Donc je vais vous montrer sur des exemples un petit peu différents, l'arithmétique modulaire, qu'en fait on observe des phénomènes très similaires, on en observe aussi quelques différents, mais que ces lois qu'on observe là sont probablement des lois assez générales des transformeurs. Donc, on va faire de l'arithmétique modulaire, donc A plus B modulo P ou A fois B modulo P. C'est pas juste des problèmes que je pose par plaisir. Il y a un domaine où on utilise énormément ça, c'est la cryptographie post-quantique. Ça repose exclusivement, quasiment, sur des produits scalaires, donc des additions, des multiplications modulaires. Donc, c'est ce qui défend l'Internet, donc la sécurité de l'Internet. Donc, c'est des choses qui ont quand même une importance dans le monde réel. Donc on va commencer par l'addition modulaire, donc addition modulo P, donc A plus B modulo P. A et B sont toujours uniformément choisis entre 1 et 1 million. Et pour P, je vais prendre une série de valeurs, 64, 65, 66, 67, 71, 112, 113. Donc j'ai des nombres premiers et j'ai des nombres composites, plus ou moins composites, j'ai un peu de tout. On va rester en base 1000 parce que bon, on a compris les bases, on ne va pas aller plus loin, on a toujours 10 puissance 12. Alors, si j'entraîne 21 modèles, j'ai 7 valeurs de P, donc 3 modèles par valeur, donc j'entraîne 21 modèles sur 600 millions d'exemples. Hein, les exemples sont différents, ils sont tous générés. Je prévois correctement entre 1,3 à 1,6% des additions modulaires. Et ça, c'est exactement 100 sur P. Ce qui veut dire que le modèle, en fait, il prévoit une classe, il fabrique une classe, il a une prévision unique, et si vous regardez, d'époque en époque, la prévision varie exactement comme EPGCD. Pourquoi ? Parce que là, les résultats sont complètement uniformes. Donc le modèle ne sait pas choisir. Il met tout dans une classe et il ne sait pas si cette classe est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il prévoit au hasard celui qu'il a vu le plus souvent. Et on va pouvoir montrer que c'est effectivement le plus souvent en trichant. Je fabrique mes données, donc je suis chez moi, je peux générer les données comme ça m'amuse. Donc là, je vais modifier ma distribution des résultats en rajoutant 1% d'exemples qui vont avoir toujours des A plus B modulo P, compris entre 0 et 4. D'accord ? Donc, je fais que la plupart de mes exemples, 99% des exemples sont complètement pris au hasard, et les autres, les opérandes sont pris au hasard, mais je force A plus B à être modulo, à être 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai un tout petit peu plus de 0, 1, 2, 3, 4 dans la distribution. Le modèle fait toujours les deux entrées en une classe, ça ne l'aide pas à apprendre. La prévision varie toujours d'une époque à l'autre, mais désormais, il ne prévoit plus que 1, 2, 3, 4. Donc, au lieu d'osciller entre 70 valeurs, il oscille entre 4. L'écart de probabilité qui suffit à modifier cette prévision, c'est 0,002. Donc, il suffit d'une toute petite probabilité supplémentaire pour obtenir ça. Et évidemment, ça confirme complètement notre hypothèse. On a été capable de reproduire ce résultat par une intervention sur un système. Alors, on va faire les mêmes expériences. Qu'est-ce qui se passe si on réduit l'échantillon maintenant ? Donc, si on travaille sur un échantillon fini, donc on va entraîner sur 50 millions d'exemples, comme avant, qu'on répète 12 fois en moyenne sur 600 millions au total. Et vous voyez les courbes, là-bas, ça, c'est les courbes de prévision. Donc, ce n'est pas terrible, en fait. Ce que vous voyez, en fait, c'est que les PGCD premiers, 67, 71, 73, il n'y a toujours qu'une classe qui est toujours prévue différemment d'une fois sur l'autre. Donc, ça ne marche pas. Si vous prenez 66, vous arrivez à 3%, c'est la deuxième courbe, ça c'est P égale 66, et il y a en fait deux classes. Le modèle prévoit les nombres pairs et les nombres impairs, enfin les sommes modulaires pairs et les sommes modulaires impairs, dans deux classes différentes qui varient elles aussi, mais il n'y a plus que deux classes. C'est exactement comme vous savez mes classes de PGCD. Et puis si j'ai 65, j'ai 5 classes, 72, j'ai 8 classes, en fait le nombre de classes c'est le PGCD entre P et la base. Alors, je ne sais pas exactement comment il fait ça. C'est des résultats qui ont moins d'une semaine, tout ça. Donc, je n'ai pas encore tout à fait compris. Mais en pratique, ce qu'on voit, c'est qu'on a bien le même phénomène avec des répartitions en classe, puis une affectation de la classe. Mais le problème est plus dur et ça marche quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bien. Alors, pour P égale 65, on pourrait stabiliser on peut rejouer le jeu de suréchantillonner certaines classes. Alors, j'ai fait pour P égale 65, il y a 5 classes prédites. Donc c'est assez amusant parce que si vous suréchantillonnez les 0 et 4, le modèle prévoit 0,4. Si cette fois vous suréchantillonnez 7 et 11, il vous prévoit entre 7 et 11. Si vous suréchantillonnez 0 et 1, les deux premières classes sont prévues 0 et 1 et les autres sont complètement au hasard. Si vous échantillonnez entre 0 et 9, vous alternez entre deux valeurs. Donc on obtient exactement les mêmes résultats qu'avant. Alors, l'autre point, pour vous montrer que tout n'est quand même pas toujours pareil, c'est les opérandes non uniformes. Log uniforme. Donc, on s'attendrait à avoir les mêmes résultats qu'avec, vous savez, dans notre cas, répétition ou log uniforme, c'était grosso modo pareil. Il y avait un peu plus de bruit pour les logs uniformes. Là, il y a beaucoup plus de bruit. Ça, c'est la courbe. Vous voyez à quel point la courbe zigzague au fil du temps. Il y a trois courbes là-dedans. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en P égale 67, vous voyez que vous êtes capable d'apprendre presque 100%. Donc, on est capable d'apprendre la tâche avec des opérateurs non uniformes, ce qu'on n'est absolument pas capable avec d'autres. Mais le prix est payé, c'est que c'est incroyablement bruyant. En P65, on a deux modes. On a des courbes qui apprennent en marche, mais ce n'est pas les mêmes marches qu'avant. Là, c'est 20 au lieu de 7. Et on a une courbe bruitée. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la courbe bruitée? En fait, il se passe quelque chose de très mystérieux. Donc ça, c'est P égale, c'est pas 35, c'est 65, mode bruité. Le modèle apprend des valeurs voisines. On observe que le modèle apprend les valeurs voisines de la valeur correcte. C'est-à-dire que quand la bonne valeur, c'est 0, le modèle, il vous prévoit soit 0, soit 1, soit 64. Et ça, c'est complètement incompréhensible, parce que le modèle, il n'a aucun moyen de savoir. Vous vous souvenez de mon histoire des pommes, des prunes et des poires? On pourrait tout renommer. Le modèle n'a aucun moyen de savoir que c'est les mêmes éléments ou des éléments différents, et pourtant, il y arrive. Et ça marche assez bien. Vous voyez, pour 0, là, on apprend essentiellement 0, mais là, on apprend 22, 38, 32, là, quasiment rien, 35, 51. Puis c'est pareil, à 22, vous voyez que c'est les trois classes qui regroupent le gros des prévisions correctes. Et au fil du temps, ces prévisions s'améliorent. Pourquoi il y a du bruit? Parce que d'une époque à l'autre, 22, c'est parfois prévu 23, parfois prévu 24, parfois prévu 21, ça bouge un tout petit peu. Vous me suivez? Donc, on a là une notion, on apprend un mode nouveau qui n'a rien à voir, que je ne sais pas très bien expliquer. Tout se passe comme si le modèle avait appris une méthode des moines carrés, sans faire aucune mathématique nulle part. Donc il se passe, dans un cas comme ça, quelque chose de mystérieux. En tout cas, ça nous apprend quelque chose, c'est que les opérandes log uniformes, c'est une drôlement bonne idée. Il faut vraiment étudier ce genre de choses en arithmétique, parce que à chaque fois, on obtient quelque chose d'intéressant. Donc, qu'est-ce qu'on a vu sur l'addition modulaire? C'est une tâche beaucoup plus dure que les PGCD, clairement. On n'apprend rien avec des données infinies. Des données répétées, c'est pas terrible, on apprend juste quelques exemples. Les opérandes log uniformes fonctionnent et on apprend un nouvel algorithme. Par contre, ça nous confirme très bien les opérations précédentes, c'est-à-dire qu'un petit échantillon de données répétées, ça aide quand même si ça n'aide pas autant qu'on voudrait. Les opérandes log uniformes, ça change les choses. Et puis, on découvre qu'il y a toujours ce phénomène de classification puis prédiction unique des entrées, avec une prédiction unique qui dépend de la fréquence des résultats de l'échantillon d'entraînement. Ça, c'est quelque chose qu'on a acquis. Alors, je vais vous présenter très rapidement, pour finir, un cas de multiplication modulaire. Donc là, j'ai pris modulo 67. Donc, multiplication modulo 67, donc c'est toujours comme avant. Alors, les mathématiciens dans la salle doivent se dire pourquoi il fait ça. Parce que la multiplication modulo 67, ça ressemble beaucoup à l'addition modulo 66. Grosso modo, on peut même montrer qu'il y a un isomorphisme entre z étoile sur pz fois, donc la multiplication par tous les nombres sauf 0, et z sur p moins 1 z plus, c'est-à-dire l'addition des nombres jusqu'à 66. Ça correspond aux notions de puissance et de logarithme, en fait. Et il y a la classe 0, donc dans cette table de multiplication, vous avez une classe 0 qui apparaît beaucoup, donc on sent que le modèle va la prévoir facilement. Et puis on a toutes les autres qui sont également distribuées et qui vont être comme l'addition. Donc, c'est quand même un problème intéressant parce qu'on sait ce qui va se passer, ou en tout cas, on peut imaginer ce qui devrait se passer. Ce qu'on devrait voir, c'est que le modèle apprenne très rapidement les zéros parce qu'ils sont plus nombreux, et puis qu'ensuite, il apprenne exactement comme l'addition modulo 66, donc on s'attend à ce que, avec des exemples infinis, ça ne marche pas, qu'avec des exemples répétés, on apprenne deux classes, puis qu'avec des exemples uniformes, on apprenne notre courbe bruitée. Donc voilà ce qu'on obtenait en modulo 66, vous vous souvenez, c'est mes exemples. Alors, c'est très intéressant parce que ce n'est pas ce qui se passe, en fait. Donc, les données illimitées, si, tous les exemples sont prévus à 0, il y a 3% de prévision correcte. Là, on a ce qu'on attendait. Avec 50 millions de données, il se passe quelque chose de très mystérieux, c'est ce que vous voyez à droite. Les modèles apprennent, 7 modèles sur 25 apprennent 100% de l'addition, de la multiplication modulaire. Et c'est bizarre parce qu'elle est isomorphe à l'addition modulo 66, mais l'addition modulo 66, on n'arrive pas à l'apprendre, mais la multiplication, on pourrait se dire elle est plus dure, on arrive à l'apprendre. Donc, mystérieux. 15 modèles prévoient 51%, et les performances du modèle, vous voyez tous les modèles différents, là, il y a 25 modèles, les marches auxquelles il apprend sont quantifiées. Alors, vous voyez ici une première marche, là, on prévoit que 0. Les autres marches, ça correspond au diviseur de 66. Donc là, vous avez 66, là, vous avez 33, là, vous avez 11, là, vous avez 6, là, vous avez 3, là, vous avez 2, là, vous avez 1. Et j'ai fait tourner beaucoup plus de 25, c'est quantifié, mais au sens physique quantique, quoi. On ne prend que certaines valeurs. Alors, comment le modèle apprend ça? Je ne me l'explique pas vraiment, mais c'est un travail en cours, avec notamment Amaury Hayat. Donc, on va essayer de comprendre. publiera sans doute un jour quelque chose là-dessus. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve malgré tout les observations du PGCD, hein, que les données répétées servent, aident à apprendre, etc. Mais la multiplication se comporte différemment de l'addition, et là, à mon avis, il y a une question intéressante pour les mathématiciens. Pourquoi ça se passe comme ça ? Moi, personnellement, ça ne me paraît pas du tout évident. Et alors, si on prend des opérandes log uniformes, on n'a pas le cas, vous savez, des opérandes bruitées. Ça apprend à toute vitesse à 100%, sans aucune difficulté, en une marche. Donc, ça ressemble un petit peu au cas des PGCD. Les log uniformes, ça accélère l'apprentissage. Mais ça l'accélère même par rapport aux exemples répétés. Voilà, donc c'est mon dernier slide, ça tombe bien. En conclusion, on arrive à apprendre l'arithmétique, on arrive à apprendre les PGCD parfaitement, mais ça demande pas mal de travail. Ça demande du travail sur la distribution d'entraînement, ça demande du travail éventuel sur la distribution de sortie. Voilà, ça peut se faire, donc il n'y a pas d'impossibilité pour les modèles à apprendre. Ce qu'on voit, et qui à mon avis est très important, c'est que l'apprentissage se fait vraiment en deux phases. Il y a une phase de classification des entrées, où finalement on tombe dans des groupes de prévisions homogènes, et ensuite on prévoit le label le plus commun. Alors cette notion de le plus commun est à définir, parce que c'est le plus commun probablement récemment dans les derniers exemples vus, donc il faudrait arriver à une définition un peu meilleure que celle que je donne, mais en tout cas c'est un phénomène qui semble se reproduire de manière assez systématique. Un autre point important, c'est qu'on a souvent tendance, quand on fait de l'IA, à jouer sur l'architecture, à dire on va changer le réseau, les paramètres, l'optimiseur, etc. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus à gagner à travailler sur la distribution d'entraînement. Donc à se dire sur quoi on entraîne, sur quoi on teste, comment on présente les exemples, ça a l'air d'être important. On voit les exemples répétés, les distributions d'opérandes, les distributions de résultats. Puis je voudrais finir par trois questions. J'avais au début intitulé cette salle « Y a-t-il un mathématicien dans la salle ?» parce que c'est plutôt des questions pour les mathématiciens. Il y a une première question qui, moi, je trouve très curieuse, c'est cette histoire de classification des entrées et d'apprentissage par lot. On a l'impression, donc si on imagine que le réseau qui apprend, c'est une sorte de système dynamique qui, progressivement, vous voyez, reçoit des données et puis il apprend, il prévoit quelque chose, un mapping, on a l'impression qu'à certains moments, il s'effondre sur des équilibres locaux ou des points sels sur lesquels il va rester, puis il va tomber dans un deuxième, etc. Donc ce serait probablement intéressant pour des gens qui font des maths ou de la théorie de l'apprentissage d'essayer de comprendre, probablement d'un point de vue d'analyse de système dynamique, de ce genre de choses, ce qui se passe dans ce genre de phénomène qui semble assez facile à reproduire. Donc ça ne va pas être un problème d'avoir des exemples pour comprendre ce qui se passe. L'autre point, je vous ai beaucoup parlé de distribution d'entraînement, de distribution de tests, etc. C'est une notion atrocement mal définie. C'est quoi une distribution de problèmes ? C'est quoi une distribution de PGCD ? De manière plus générale, c'est quoi, vous voulez intégrer des fonctions, vous résoudre des... C'est quoi une distribution d'exemples d'équations différentielles ? Quand on dit on apprend hors distribution, c'est quoi ? Donc, il y a un vrai sujet d'étude là-dessus, sur cette notion de métrique sur des problèmes, ou distribution de problèmes, ou proximité entre problèmes, qui à mon avis n'est pas très étudié en mathématiques, mais qui serait très utile à l'IA. Et puis le dernier point, c'est une question moi, qui me fascine, c'est sur la répétition. Vous voyez, dans le cas de la répétition, ce qu'on voit, c'est que le modèle, pour qu'il marche très bien, pour qu'il apprenne les PGCD, on va lui donner 50 000 exemples qu'on va répéter 3 000 fois. Et puis les autres exemples ne seront pas répétés. Ça, c'est ce qui permet d'apprendre le mieux. 50 000 exemples répétés 3 000 fois sur 600 millions d'exemples, ça veut dire qu'un exemple est vu tous les demi-millions d'exemples en moyenne. C'est pas nous qui apprenons la table de multiplication en la répétant et en la chantant. C'est on voit un exemple tous les demi-millions. Et cet exemple est noyé à l'intérieur d'un mini-batch, à l'intérieur d'un tas d'exemples qui sont calculés en même temps. Donc la question, c'est comment fait le modèle ? Parce que le modèle fait une différence entre l'exemple déjà vu, qu'il a vu il y a 1 million d'exemples ou 500 000 exemples, et le modèle jamais vu, qu'il a encore jamais vu dans 200 millions d'exemples passés. Comment le modèle arrive à faire ça ? Et on sait que ça fait une différence, on le voit. Comment est-ce possible ? Donc ça, c'est une des questions que je trouve le plus mystérieuse dans tout ça. Voilà, j'en ai fini, je vous remercie beaucoup.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.